Elle va passer en direct aussi, normalement, sur Facebook et sur le site de l'église, ebbp.info. Et dans les 4 prochains messages, j'aimerais donc étudier la fin de la Bible. La fin de toute chose, c'est les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, en commençant par le chapitre 19. C'est merveilleux de pouvoir connaître la fin de l'histoire à l'avance et savoir que le Seigneur va triompher, même s'il y a encore des combats, des horreurs qui se passent dues au péché des hommes, dues à l'œuvre de Satan aussi, hein, qui cherche à détruire le plus grand nombre. Dans tout cela, le Seigneur se glorifie quand même par des âmes sauvées, par des victoires, par des jugements et nous verrons, nous voyons dans la Bible qu'il va revenir, établir son règne, et que ce sera aussi pour la terre un moment extraordinaire de paix, de justice. La justice sera établie. Beaucoup crient après, beaucoup attendent cette justice, et elle va venir. Mais quand elle va venir, elle va être totale. C'est toute la terre qui va être jugée et rétablie. Et c'est pour ça que Dieu patiente encore, laissant aux hommes le temps de se repentir avant que le jugement ne vienne. Et donc la fin de la Bible nous parle des derniers jugements et surtout des derniers triomphes du règne de Christ et de la vie au ciel, de la nouvelle terre. Nous allons voir toutes ces choses. Donc je vais essayer de faire un chapitre à chaque fois. Donc nous allons commencer ce soir avec le chapitre 19 de l'Apocalypse. Je vais commencer par lire. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia! » Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands !» Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. » Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Clairement, dans l'Apocalypse et dans ce passage, d'autant plus, on voit deux destins différents. Ceux qui appartiennent à Dieu vont se réjouir dans les noces de l'agneau, et ceux qui sont en révolte contre Dieu seront jugés par la colère de Dieu. Et il faut choisir son camp. Le Seigneur appelle tous les hommes à venir à lui. Il aime tous les hommes de ce monde. Il est mort pour tous les hommes, pour que tous aient une chance d'être sauvés. Jésus-Christ a payé sur la croix la dette de tous ceux qu'il aime, de tous les hommes et toutes les femmes. Maintenant, c'est à nous d'accepter ce cadeau, de demander pardon, de reconnaître nos offenses envers Dieu et de venir à lui. Si on ne vient pas à Dieu, on reste en dehors de son royaume et on est sous la colère de Dieu. Ici, nous voyons d'abord et nous entendons surtout des choses. Qu'est-ce que nous entendons au début du chapitre ? Voilà, on entend des cris de victoire. Qu'est-ce que ça veut dire Alléluia ? C'est de l'hébreu. Allélu, ça veut dire nous louons. Et Yah, c'est le diminutif de Yahvé, hein, de Jéhovah, du nom saint, du nom de l'Éternel. Donc nous louons l'Éternel. Alléluia, c'est de l'hébreu. Et c'est la première fois qu'il apparaît dans le Nouveau Testament, ce mot. Il se trouve plusieurs fois dans l'Ancien, bien sûr, dans les psaumes en particulier. Mais c'est la première fois qu'il est dans le Nouveau. C'est la victoire finale. Alléluia, le Seigneur arrive. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire d'accueillir le salut final. Parce que nous sommes déjà sauvés si nous croyons en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés, mais le salut final n'est pas encore là. Lorsque toute la terre sera sauvée, d'abord jugée, purifiée, et lorsque le salut sera complet. Ici, il dit « La grande prostituée a été jugée ». Donc ça fait allusion au chapitre 18 et au chapitre 17. Au chapitre 17, il est question d'une grande prostituée qui chevauche la bête. La bête, c'est un autre nom pour le fameux antichrist. La bête, ça signifie, c'est quelqu'un de monstrueux. Hein. Et donc, la grande prostituée, c'est une organisation religieuse, hein, mondiale, qui va chevaucher l'antichrist et qui va se servir de l'antichrist pour exercer une domination et surtout pour corrompre. Hein. La prostituée, c'est quand même l'image de la débauche, c'est l'image de l'impureté. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'en ce moment, on parle beaucoup du harcèlement sexuel en essayant de l'enlever, mais la débauche augmente partout. Et la pornographie est une entreprise qui gagne des milliards. C'est la première entreprise d'Internet. Et elle atteint tous les foyers. Et c'est vraiment un moyen de corrompre les familles, de séparer les couples. C'est un moyen de faire du mal aux femmes et de donner une fausse image de la sexualité, chose que Dieu a créée. Et la grande prostituée, elle ne va pas simplement corrompre la sexualité, elle va corrompre tout. Et la corruption aussi ne recule pas vraiment sur la terre. Les puissants sont toujours corrompus. Pas tous, heureusement, mais si vous voulez arriver à un certain niveau, il faut faire de la corruption. Il faut participer. Et Dieu va juger la grande prostituée d'Apocalypse 17, qui va utiliser la religion pour corrompre les gens, ce qui est étonnant. Hein. D'ailleurs, Jean, quand il voit ça, il est très étonné. Il voit une religion qui est corrompue et qui corrompt les autres. Et puis, au chapitre 18, c'est une autre Babylone, c'est la Babylone économique. C'est une grande ville qui beaucoup de commerce, beaucoup d'argent qui circule, et qui, elle aussi, est jugée par Dieu et détruite. Et donc on voit le système, en fait, Babylone, ça représente ce monde qui vit sans Dieu, ce monde qui marche sans Dieu, ce monde qui met Dieu dehors. Ça fait penser à la tour de Babel, hein, dans la Genèse, bien sûr, Babel, Babylone, c'est la même ville, où les hommes avaient construit une tour pour atteindre les dieux, mais sans le vrai Dieu. Hein. Ils voulaient bâtir sans le vrai Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, les tours montent aussi, hein. Il y a des tours. Vous allez dans certains pays, hein, des Émirats, vous avez les plus hautes tours du monde, et c'est toujours un peu cette idée, nous les hommes, nous pouvons faire des choses extraordinaires, des prodiges, nous n'avons plus besoin de Dieu. Nous, s'il y a un problème, on va aller sur Mars, s'il y a un problème, la médecine va résoudre tout, l'homme va tout résoudre, il n'a plus besoin de la Bible, il n'a plus besoin de Jésus, il n'a plus besoin de Dieu. Beaucoup de gens pensent à quoi ça va me servir de croire, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Et ils ne réalisent pas leur fragilité, leur faiblesse, et surtout qu'ils vont mourir et qu'ils ne sont pas prêts à mourir. Mais c'est cette Babylone, ce monde anti-Christ et anti-Dieu et anti-chrétien, parce qu'il va persécuter tous ceux qui croient dans la tribulation, sera jugé. Et là, c'est la victoire. Ça y est, il est jugé. Sa fumée monte au siècle des siècles. Hein. Pour toujours, la Babylone est détruite. Et ils disent Alléluia. Qui sont les 24 anciens et les 4 êtres vivants? Les 24 anciens représentent certainement l'Église et peut-être tout le peuple de Dieu, en fait. 24, c'est 2 fois 12. Il y a 12 apôtres de Jésus et il y a 12 tribus d'Israël. Voilà. Dans la Bible second, moi j'ai vieillard. Ce ne sont pas des vieillards au sens des personnes avec une canne et qui sont fatiguées, qui sont âgées. Ce sont des anciens, ça symbolise, ce sont des gens qui représentent. Hein, les anciens représentent, par exemple, dans les villes d'Israël, les anciens se réunissaient à la porte de la ville pour représenter la population et prendre des décisions. On les appelait les anciens. Et donc là, ces 24 anciens, ils représentent le peuple de Dieu au ciel. Et ils se réjouissent. On les trouve déjà au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et les 4 êtres vivants, ce sont des chérubims. Les chérubims, ce sont des êtres célestes, des anges. Ce sont ceux qui sont le plus proches de la gloire de Dieu. Ce sont ceux qui ont été sculptés sur l'arche d'alliance, si vous connaissez un peu le plan du tabernacle. Et ces chérubims sont là avec les hommes pour louer Dieu et honorer le Seigneur pour sa gloire. Ils disent Amen. Amen, c'est un mot de quelle langue ? C'est de l'hébreu aussi, Amen. Voilà, c'est pareil en araméen, c'est Amen aussi. Et Amen, ça veut dire, oui, en vérité, je suis d'accord, que cela soit, ça a tout ce sens d'appuyer quelque chose. Et quand vous trouvez dans l'évangile Jésus qui dit, en vérité, je vous le dis. En fait, qu'est-ce qu'il dit en araméen ? Amen, Amen. Voilà, c'est une façon de dire, c'est certain, ce que je dis est certain. Comme il dit ici, ce sont les paroles véritables de Dieu, hein, au chapitre 9. C'est certain. Amen. Le jugement est arrivé et le Seigneur va revenir. Il dit, verset 5, « Louez votre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et que l'on soit petit et grand dans le monde, on est pareil devant Dieu. Voilà. Quand on est grand, quand on a des titres et des pouvoirs, on a l'impression qu'on est supérieur au reste de la population. Hein. C'est facile parce que, justement, vous avez des pouvoirs, vous avez des privilèges. Si vous êtes dans une voiture de fonction, si quand vous donnez des ordres, tout le monde vous obéit, vous vous sentez un peu supérieur au reste du monde, mais devant Dieu, vous êtes exactement pareil. Et vous avez besoin de vous repentir, vous aussi. Mais quand on craint le Seigneur, quand on a cette humilité, cette foi humble, eh bien, on peut louer Dieu parce qu'il va venir juger la terre. Et puis, il y a cette foule qui chante et qui crie comme les chutes d'eau. Hein. Est-ce que vous avez déjà été près des chutes d'eau grandioses ? Il y a les fameuses chutes du Niagara, mais il y en a en France aussi, hein. Et quand vous êtes là, vous ne pouvez plus vous entendre, vous n'entendez plus rien que ce bruit assourdissant de l'eau qui tombe. Et c'est impressionnant. Et là, c'est ce bruit qu'on va entendre dans le ciel. On a entendu les cris de joie, Alléluia, Amen. Et là, c'est tous ensemble, eh bien, cette foule nombreuse de croyants qui sont au ciel et qui ont souffert, pour certains, hein, d'être persécutés, eh bien, ils se réjouissent. Le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Et on voit bien que dans l'Apocalypse, Dieu et Jésus-Christ sont la même personne. Hein. Qui est entré dans son règne? C'est Jésus-Christ qui règne. C'est lui le Messie, Jésus le Messie. Et là, il dit notre Dieu Tout-Puissant. Qui est notre Dieu Tout-Puissant? C'est Jésus-Christ. Et on arrive au verset 7 avec les noces de l'agneau. Pour comprendre cette idée de noces, c'est le repas des noces, là. En Israël, au temps de Jésus et au temps de l'apôtre Jean, les noces se passaient en trois parties. Et c'est très important parce que ça va éclairer d'autres paraboles dans la Bible, notamment celle de Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Trois temps. Premier temps, les parents décide le mariage. C'est comme ça que ça se passait. On choisissait pas forcément son conjoint. On pouvait dire non quand même, mais pas trop souvent. Et la jeune femme était achetée par la dot. Donc les parents et le fiancé payaient une dot et c'était une façon de dire voilà, nous prenons votre fille. Et les autres parents acceptaient la dot. Ils pouvaient refuser, dire ah non, là c'est pas assez, on refuse. Donc il y avait un accord qui se faisait entre parents et l'épouse était achetée. À partir de ce moment-là, c'était ce qu'on appelle le moment des fiançailles. Quand l'accord était trouvé entre les parents, il y avait une cérémonie de fiançailles où on promettait l'un à l'autre et c'était comme un mariage presque. Quand vous étiez fiancé, c'est pour vous séparer, il fallait quasiment une autre cérémonie pour divorcer. Rappelez-vous quand Joseph et Marie se sont fiancés. Enfin, on voit pas quand ils se sont fiancés, mais on sait qu'ils étaient fiancés. Et quand Joseph a appris qu'elle était enceinte sans qu'ils aient eu de relation, il dit, il voulait pas rompre avec elle. Il était obligé de rompre parce qu'il s'était fiancé. Mais lui, il a dit, je vais faire quelque chose de discret pour qu'il n'y ait pas d'opprobre, hein, pour qu'elle ne soit pas rejetée de la synagogue et de tout, hein, de sa famille. Et jusqu'à ce que l'ange lui dise, mais non, si elle est enceinte, c'est par la vertu de Dieu, tu peux la garder avec toi. Et bien là, donc il y a cette première étape, le rachat et les fiançailles. Deuxième étape, et parfois on attendait plusieurs mois avant la deuxième étape. Hein. On avait fixé les terres, on avait fiancé, puis on attendait. Bon. Le fiancé se prépare et il vient chercher sa fiancée chez elle. Donc il fait tout un voyage avec ses amis masculins en général. Ils chantent, ils dansent et ils arrivent devant la maison des parents de la fiancée et il dit « Je viens te chercher, mon épouse, pour que tu vives avec moi. » Et donc, ils refont le voyage en sens inverse, chez le fiancé. Et quand ils arrivent chez le fiancé, c'est la troisième étape, ce sont ce qu'on appelle les noces, c'est le repas qui pouvait durer une semaine. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez, une semaine de fête, où on festoyait. Et la fiancée venait accompagnée de ses amis. Donc, le fiancé venait avec ses amis masculins et elle revenait avec ses amis féminins. Et c'est comme ça que se passait le mariage oriental dans la plupart des familles. Bien sûr, là, il y a une image spirituelle pour nous. Si nous sommes l'épouse de Christ en tant que croyants et église, le Seigneur nous a rachetés par son sang. Il nous a d'abord aimés. Il nous a vus, il nous a aimés. Il dit, je veux que tu sois à moi. Il nous a rachetés par son sang. Et nous avons été, quand nous avons cru en lui, nous avons été fiancés. C'est Paul hein, qui utilise cette expression dans 2 Corinthiens 11, il dit « Je vous ai fiancé à un seul époux ». Et nous sommes fiancés à Christ. Et un jour, le Seigneur va venir nous chercher pour nous ramener chez lui. Il a dit « Je vais m'en aller, mais je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous soyez aussi ». Jean 14. C'est la deuxième étape, nous allons être pris par le Seigneur pour aller chez lui, avec lui. Et troisième étape, Apocalypse 19, les noces, le fameux repas des noces. Alors, c'est pas qu'on va manger forcément quelque chose là, mais c'est la cérémonie finale de joie, de fête, pour dire nous sommes réunis, nous sommes mariés, maintenant nous sommes mari et femme. Et c'est ce qui se passe dans ce chapitre-là. L'épouse est préparée. Elle est revêtue de fin lin pur. Qu'est-ce que c'est ce fin lin? Ce sont les œuvres justes. Est-ce que nous sommes justes en nous-mêmes en tant que chrétiens? Oh non. Si nous sommes justes, c'est par la grâce de Dieu. Si nous faisons des bonnes œuvres, c'est parce que ce sont des œuvres que Dieu a préparées et qui nous donne d'accomplir par son Saint-Esprit. Mais Dieu veut qu'on se prépare. En attendant que le Seigneur vienne, est-ce qu'on doit rester là à faire n'importe quoi, à aller voir tous les hommes du coin? C'est ça que faisaient les fiancés? Non, les fiancés se préparaient pour le jour où le fiancé allait venir. Elles ne savaient pas quand il allait venir. Il n'y avait pas de téléphone, pas de texto, pas de WhatsApp. Hein. Un jour, on lui disait, hop, ton fiancé, là, est à 2 journées de marche. Oh là là! Elle se préparait. Elle s'habillait de sa plus belle robe, de sa plus belle tenue. Elle se lavait, se parfumait. Et nous, ça symbolise quoi pour nous? C'est notre vie chrétienne, notre sanctification, hein, en attendant le Seigneur. Celui qui attend le Seigneur, qui a cette espérance, se purifie comme Jésus est pur. Hein. C'est Jean qui dit ça aussi, qui écrit ça. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ah, ce sera un moment extraordinaire. Et Jean est tellement ému de voir ce dénouement, de voir ce festin qui va avoir lieu lorsque l'Église sera réunie avec son Seigneur, qu'il tombe aux pieds de l'ange et il l'adore. Et l'ange lui dit, « Surtout pas, je suis ton compagnon de service. » Je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Les anges sont des serviteurs de Dieu. On ne doit jamais adorer un ange. On adore que Dieu seul. Et c'est ce qu'il dit. Adore Dieu. Mais il dit une phrase un peu mystérieuse, mais qui est très profonde. Verset 10. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. La prophétie, c'est l'Apocalypse, mais c'est aussi en fait toute la Bible. Toute la Bible est inspirée par le Saint-Esprit. Toute la Bible est une prophétie quelque part, hein. Et si vous voulez connaître le sens de la Bible, le but de la Bible, il faut chercher Jésus. C'est lui l'esprit de la prophétie, c'est lui le commencement et la fin. La Bible parle du Messie du début à la fin, depuis Genèse 3:15 où il est dit que la semence de la femme va écraser la tête du serpent, jusqu'à Apocalypse 19 où Jésus écrase la tête du serpent, ben, c'est toute la Bible. Et l'Apocalypse rétablit ce que la Genèse a vu, détruit, la relation avec Dieu. Et dans l'Apocalypse, il y a cette victoire extraordinaire. Jésus est l'esprit de la prophétie. Si vous étudiez la Bible pour avoir des connaissances théologiques, si vous étudiez la Bible pour, je ne sais pas pour quelle autre raison, quelle autre motivation, vous égarez. Il faut étudier la Bible en cherchant Jésus-Christ. Il y a un bon livre qui est traduit en français que vous pouvez trouver dans les librairies. C'est Jésus dans toutes les Écritures. Et c'est un chrétien qui a pris le temps de regarder toute la Bible et toutes les allusions à Jésus, au Messie, depuis la Genèse jusqu'à la fin. Et c'est un livre très enrichissant parce que il y a plein de choses dans l'Ancien Testament, en particulier des images. Mais oui, c'est ça, c'était déjà une annonce du Messie. À partir du verset 11, nous voyons le cheval blanc et celui qui le montait, qui s'appelle fidèle et véritable. Là, nous ne sommes plus dans les noces. Nous sommes dans le retour glorieux de Jésus-Christ qui va juger. Il est sur son cheval, ça signifie qu'il vient juger en tant que chef, en tant que seigneur des seigneurs, roi des rois. Et dans sa description, hein, il n'est pas le Jésus des évangiles, hein. C'est pas le même. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Il porte plusieurs diadèmes. Il a un nom mystérieux. Son vêtement est teint de sang. Et son nom est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Et la parole était Dieu, elle était avec Dieu. C'est Jésus-Christ, encore une fois, hein. Jean chapitre 1. Celui qui est fidèle et véritable. Qu'est-ce que ça symbolise? Parce que l'Apocalypse est plein de symboles, bien sûr. Les yeux comme des flammes de feu. C'est quoi, par exemple, comme symbole? Oui, mais ses yeux. Pourquoi c'est dans ses yeux? Voilà, c'est l'omniscience. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Et ses yeux nous transpercent, hein, l'âme. Il voit toutes les choses cachées. Il n'y a rien qu'on puisse cacher à Dieu. C'est le juste juge. Jésus et Dieu ne va pas juger sur des oui-dire. Il ne va pas nous regarder à notre tête en disant « Bon, toi, tu as une bonne tête. » Non. Jésus va juger l'âme, le cœur, le fond. Voilà. Et puis, les diadèmes, c'est ce qu'on mettait sur souvent les rois. C'est l'idée de tout puissant. Il a plusieurs diadèmes, il est tout puissant. Il est le roi des rois, dit ici le passage, le seigneur des seigneurs. Il a un nom mystérieux. Son nom, alors après, au verset 13, il dit son nom est la parole de Dieu. Mais sinon, il dit, il a un nom mystérieux. Voilà. Il a un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et ça reste un mystère, cette parole, mais peut-être que ça nous dit que on ne peut pas tout connaître de Dieu. Dieu nous dépasse. Et il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'il n'a pas encore révélées ou qu'il ne veut pas nous révéler. Dieu est infini, nous on est fini. Et donc, on peut savoir qu'il est la parole de Dieu, là il le dit lui-même, mais pour le reste, il y a des choses qui nous dépassent tellement dans la personne du Seigneur. Et puis son vêtement teint de sang, c'est à la fois le symbole de la justice, hein. Ça veut dire il va frapper là. Hein. Mais c'est aussi peut-être et certainement son propre sang qu'il a versé pour nous. Si vous avez lu le livre de l'Exode, lors du Yom Kippour, le souverain sacrificateur, lorsqu'il rentrait une fois par an dans le lieu très saint, il devait faire une chose avant de pouvoir rentrer. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait s'asperger lui-même du sang du bouc. On tuait deux boucs. Hein? L'un qui allait dans le désert pour Azazel et l'autre, le bouc du sacrifice. Et avec le sang du deuxième bouc, on mettait dans une coupe et le sacrificateur s'aspergeait pour couvrir ses propres péchés. Et il pouvait rentrer dans le lieu très saint et il aspergeait le coffre de l'arche de l'Alliance. Jésus est notre souverain sacrificateur, c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Il est aussi teint de sang, hein. Il est venu avec son propre sang pour obtenir une rédemption éternelle, dit la Bible. Il est accompagné d'armées célestes sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Qui sont ces armées? Le mot armée nous fait penser aux anges. Dieu est appelé Yahvé Sabaoth, ça veut dire l'éternel des armées, c'est son nom. Et les armées symbolisent les anges. Mais c'est aussi certainement le fin lin est pur, ça nous fait penser à qui là? Eh oui, à l'église, hein, l'épouse qui est là aussi, revêtue de fin lin et qui vient avec le Seigneur. De sa bouche sort une épée aiguë. Et c'est le symbole, encore une fois, de sa parole absolue. Quand Dieu dit, les choses arrivent. Personne ne peut échapper à la parole de Dieu. Et puis, c'est le moment de ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Alors, le mot Armageddon n'est pas dans ce chapitre 19. Il se trouve au chapitre 16. On peut juste y faire une petite visite. Verset 13 du chapitre 16. « Je vis sortir de la gueule du dragon. » Dragon, c'est Satan. « De la gueule de la bête, c'est l'antéchrist, et de la bouche du faux prophète. » C'est le faux prophète qui fait des miracles pour l'antéchrist. « Trois esprits impurs, des démons, hein, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, de toute la terre, pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. « Voici, je viens comme un voleur, dit le Seigneur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Voilà, la vallée de Megiddo, la vallée du jugement. Et cette prophétie d'Apocalypse 16 certainement s'accomplit là, au chapitre 19, lorsque toutes les armées sont réunies. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Apocalypse 19, 19. Il va y avoir un immense rassemblement. Au chapitre 16, on apprend que l'Euphrate sera asséché, hein, l'Euphrate, justement, qui passe là au sud d'Israël, enfin, et en Syrie. Et il sera asséché pour permettre aux armées de l'Est. Donc, ça peut être plein d'armées, là, de l'Est, hein. Il y a la Russie, même jusqu'à la Chine, l'Inde, mais c'est aussi, bien sûr, l'Iran, etc., tous les pays, l'Irak. Tous les pays limitrophes vont se réunir pour attaquer qui ? Le Messie et Israël. Et le peuple qui est avec lui. Ils vont s'attaquer. Comment peut-on penser qu'on va atteindre le Messie, hein? Mais ils ont cette folie parce qu'ils sont entraînés par ces démons, ces esprits impurs. Et ils vont vouloir écraser Israël et ils vont vouloir écraser le Messie d'Israël. Et c'est eux qui vont être écrasés. Et c'est la fameuse bataille d'Armageddon. Ceux qui ont visité Israël ont été sur cette colline d'où l'on domine la plaine. C'est Napoléon Bonaparte, lorsqu'il a visité cet endroit, a dit « La Bible est un livre extraordinaire parce que je vois cette vallée, effectivement, des millions de gens pourraient se réunir là et se battre. » Israël sera à nouveau le pays haï de tous parce que Satan a de la haine pour Israël, parce que c'est le peuple qui porte le nom de Dieu. Dans Israël, il y a « elle ». Et toutes ces armées vont venir et Christ va les écraser par le souffle de sa bouche et il va immédiatement envoyer l'antichrist et le faux prophète dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est ce qu'on appelle ailleurs l'enfer, hein. C'est la destination finale des perdus. Les temps de feu, dit le Seigneur Jésus, a été créé pour Satan et ses démons. Il n'a pas été créé pour les hommes. Mais les hommes qui suivent Satan et ses démons vont s'y retrouver aussi. Mais les premiers qui sont envoyés vivants dans les temps de feu, c'est l'antéchrist et le faux prophète. Et ils auront fait énormément de mal pendant 3 ans et demi. On pourrait dire que ce n'est pas très long, mais ce qu'ils vont faire en 3 ans et demi va être abominable. Ça va être une dictature mondiale où ils vont persécuter les chrétiens, ils vont les pourchasser partout. Les juifs et les chrétiens vont être persécutés. Les juifs, on le voit en Apocalypse 12, hein. Lorsque le diable poursuit Israël et que Dieu, avec ses ailes, le met à l'écart dans le désert, sauve Israël. Mais là, ils vont encore attaquer Israël. Et ça nous fait penser à un passage de l'Ancien Testament, Zacharie, si vous voulez prendre dans votre Bible, l'avant-dernier prophète de la Bible. Zacharie. Chapitre 14. Voici le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel, c'est une expression prophétique pour désigner le jour du jugement, qui n'est pas juste 24 heures. Hein. C'est le moment du jugement, le jour de l'Éternel. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et l'Occident, et se formera une très grande vallée. Cette prophétie est extraordinaire, parce que quand Jésus est monté au ciel, d'où est-il parti ? De la montagne des Oliviers. Et qu'est-ce que les anges ont dit aux apôtres qui le regardaient ? Il va venir de la même manière qu'il est parti. Et ici, il nous est dit que l'Éternel lui-même descend sur le mont des Oliviers. L'Éternel, c'est Jésus-Christ, hein, notre Dieu Tout-Puissant. Et cette descente-là va être pour exterminer la bête, le faux prophète et les armées qui seront avec lui. Israël sera quand même meurtri, hein, dans cette bataille. Mais le reste se tournera vers le Seigneur, hein. Et c'est Zacharie qui le dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. Ils reconnaîtront leur Messie à ce moment-là, les survivants, les croyants. Ce sera quelque chose de terrible pour ceux qui sont dans les armées. Il y aura beaucoup de soldats qui vont mourir. Il parle des oiseaux de proie là qui vont manger leur chair, hein. Cette image revient souvent dans l'Ancien Testament aussi, hein, des vautours. Jésus en a parlé aussi, qui mangent les restes des cadavres. C'est pour exprimer la force du jugement. C'est que ces personnes se sont opposées à Dieu et on ne s'oppose pas à Dieu sans conséquence. Il y a un jugement terrible. Et là, on pourrait se dire, mais qui peut être sauvé, hein? Qui peut être sauvé? Pour être sauvé, il faut être du côté de l'agneau, je l'ai dit au début, du côté du sauveur, du celui qui est sur le cheval, fidèle et véritable, du côté de la parole de Dieu. Si on est du mauvais côté, on va être pris dans cette tourmente de l'antichrist d'abord. Hein. On se dit plus jamais ça, en pensant à Hitler et au nazisme. Mais ça peut revenir tellement vite, c'est tellement facile d'exercer une dictature quand vous avez la télévision, internet et que vous pouvez tout contrôler, contrôler tout le monde, des caméras partout, des puces partout. Ce sera tellement facile. Plus personne ne pourra s'échapper. Vous serez suivi à la trace. Et un dictateur peut utiliser tous ces systèmes de sécurité là pour nous protéger. Il peut les retourner. Comme c'est déjà le cas un peu aux États-Unis, hein, lorsqu'il y a eu, donc les attentats du World Trade Center, hein. Ils ont mis en place ce système de surveillance généralisée du monde entier. On est tous surveillés, c'est même pas les Américains. Hein. La NSA écoute tout. Ils ont des salles d'ordinateurs géantes. Et tous les SMS, tous les petits messages qu'on envoie, on dit, non, personne ne le sait. Non, tout le monde, on peut le lire. Ça, c'est ça qui est terrible. Tout peut être lu et vu au moment où ils le veulent. Heureusement, ils n'ont pas assez de personnel pour tout lire, évidemment. Mais un dictateur va utiliser ça et il va en vouloir aux Juifs. Il va en vouloir aux disciples de Jésus-Christ qui se convertiront pendant ce moment. Et il va les poursuivre de sa haine. Ils ne pourront plus ni acheter ni vendre parce qu'ils refuseront la marque. Et ça va être des moments terribles. Il faudra persévérer jusqu'à la fin, jusqu'au retour là, pour être sauvé. Pour nous, nous croyons que nous ne participerons pas à ce moment terrible parce que nous sommes la fiancée et nous allons... Il va d'abord venir nous chercher. Nous croyons que dans la Bible, Dieu cherche d'abord ceux qui lui appartiennent avant de juger. Il l'a fait pour Noé, il l'a fait pour Lot. Avant de juger Sodome et Gomorre, il est allé chercher les justes. Et il a sorti Lot avant que le feu ne tombe. Il sortira son église avant que son jugement n'arrive. Et nous attendons le Seigneur d'un jour à l'autre. Et rien ne le retient, il peut venir d'un instant à l'autre. Et nous voulons vivre en tant que fiancés qui se prépare pour la venue de son époux et qui jouira de ses noces, de ce festin merveilleux dans sa présence et qui verra la justice de Dieu s'exercer sur toute la terre. Que le Seigneur nous touche par ces paroles de Dieu.